C'est le hasard de la vie. Au début, on pense voilier, hors-bord, zodiac, des bateaux qui vont vite, qui tracent. Puis en fait, tout ça, c'est de la frime. En plus, j'adore ramer. J'aime ma barque. En plus, c'est un mode doux. Maintenant, moi, je vais au boulot en barque. Ça prend plus de temps, mais ça me ressource. J'aime ma barque. Avec ma barque, je vais à mon rythme. Avec ma barque, je vais où je veux, quand je veux. J'aime ma barque.
C'était un message pour la promotion des barques et des embarcations lentes.
Vous avez enfin compris que le loup-garou est un jeu réactionnaire.
Vous vous êtes brisé les genoux à la soule.
Vous en avez marre des soirées jeux coopératifs à la maison de l'écologie.
Alors, pour vos soirées d'hiver, essayez le jeu de la ZAD.
Juste 4 actions.
Il y a encore une action.
Ouais, moi, c'est une action, mais on... Ça
sera... Incarnez un ou une zadiste et défendez des terres agricoles.
Bah vas-y, fais sabotage de rénarment ici.
Stoppez les bulldozers qui saccagent le bocage.
Je vais reprendre mes pions, mais il y a plus de machine.
Cultivez vos légumes.
Parce que ça sert.
Multipliez les constructions de cabanes pour ralentir la progression des engins.
Et bah vas-y, enchaîne ton squat.
Plantez des barricades pour protéger des gendarmes mobiles.
Un squat barricadé, ça vaut 4.
Et mobiliser les soutiens extérieurs.
Ouais, mais non, le cocktail et Molotov, c'est plus efficace, c'est 3.
Oui, mais c'est pas grave, on défend celui-là et celui-là, on perdra.
Et n'oubliez pas de harceler les forces de l'ordre pour les démoraliser au maximum.
On peut pas perdre celle de là.
5, 6, 7, 8, 8 flics.
Bah, il y en a une que je peux défendre, mais la deuxième,
à qui restent les actions encore? Au rouge, justement.
Le jeu de la ZAD.
Yes!
Putain!
Pour construire un monde de simplicité et de partage.
Pour Noël?
Offre le jeu de la ZAD.
Salut camarade.
Salut.
Je voudrais un jeu de la ZAD s'il te plaît pour Noël.
Ah non, jeu de la ZAD non, en fait désolé, il n'est pas encore disponible.
Merde.
Bah, on n'a pas été très efficace, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Et puis il y a Camille qui s'est cassé avec le prototype des cartoons activistes.
C'est pas vrai.
Et si, du coup ça arrive mais il faut attendre encore un peu.
Le jeu de la ZAD,
il n'est pas disponible pour ce Noël.
Plus d'infos sur zadlejeu.revoluBlog.com.
Et donc le jeu de pavé, tu le mets là?
Je peux le lancer là, oui.
Ça fait 2, 5, 2, 4, 6, 8. Donc
et
ça fait moins de 3.
Qui est pas barricadé, je
crois. Ça y est, ouais.
5, plus 6, 2, 7.
Plus 2, 7.
7 avec ces trucs.
Moins 2.
Contre. Ils sont 8.
Ils sont 8, ouais.
Donc on est à moins 1.
Moins 1.
5 ou plus.
5 ou plus.
5 ou plus.
Ah, c'est pas moi qui l'ai cédé.
J'ai eu de la chance depuis tout à l'heure.
Non! Mégacombi, c'est un truc qui prend, ça va exploser, c'est la radio.
Prime time.
Tous les mercredis à 18h.
Mégacombi, prime team, prime time.
C'est le prime time de Mégacombi?
Non, je crois que c'est la prime team de Mégacombi, non?
De Mégacombi. À 18h ce mercredi.
Mégacombi. No more hostage breaking news.
Mégacombi édition spéciale otage. On a appris hier la triste nouvelle de la libération du dernier otage annoncé dans un message solennel du président de la République. La France n'a plus d'otages dans le monde. Comment remédier à ce manque? Quelles conséquences pour l'image du pays? Pourquoi on ne nous veut plus? C'est à ces questions qu'on va tenter de répondre avec dans nos studios un spécialiste de la géopolitique du kidnapping, Bernard Grotta. Bonjour Bernard.
Bonjour.
À vos côtés et en totale exclusivité, un des ravisseurs de Serge Lazarevitch et membre d'ACMI, Abou Abdel, bonjour.
Bonjour.
On retrouvera également dans un instant notre envoyé spécial à Raqqa en Syrie et puis on attend bien sûr vos réactions sur les réseaux sociaux à Chiche Mégacombi.
No more stage crisis.
On va commencer avec vous, Abou Abdel, parce que vous avez une séance de cinéma dans pas longtemps, il me semble.
Oui, je vais voir Timbuktu à la séance de 18h au Pâté Bellecour. Mais bon, là, avec le temps des pubs, je devrais pouvoir voir le début, ça va le faire.
Alors Abou Abdel, pourquoi avez-vous libéré le dernier otage?
Bah, je sais pas si vous le connaissiez bien, le Serge, là, mais au quotidien, c'était pas facile. Déjà, il est très très colérique. Par exemple, ça nous arrivait de tomber en panne dans le désert, parce que l'essence, bah, on n'en a pas beaucoup. Il piquait de ses colères, il était aussi très exigeant sur les repas. Jamais rassasié, le gars, il en voulait toujours plus.
Ouais, enfin, vous lui avez quand même fait perdre 20 kilos en 3 ans de détention.
Oui, 20 kilos, enfin, il avait de la marge. Il faisait 120 kilos, l'animal, quand on l'a chopé.
Mais Abou Abdel, 3 ans, vous en rendez compte? C'est long quand même.
Ah bah, on parlait pas, moi je dormais plus. Vous savez, la nuit, il fait des petits bruits, le Serge, des sortes de petits couinements. Et... C'est très très désagréable.
Et pour Philippe Verdon, que vous avez pris en otage avec Serge, qu'est-ce qui s'est passé?
Ah bah, Philippe, il nous a beaucoup déçus lui par contre. C'était toujours lui qui gagnait à la coinche, ça énervait mes hommes. Et puis un jour, on s'est aperçu qu'il trichait. Mais là, les gars, par contre, va falloir vraiment que j'y aille. Hein.
Pas de problème. Merci pour le détour exclusif dans nos studios, Abou Abdel.
Ah, mais de rien.
Et bonne séance.
Mega Combi, no more hostage breaking news. No more hostage crisis.
Il n'y a plus d'otages français dans le monde. Bernard Grotta, quel enseignement on peut tirer de cette nouvelle?
Écoutez, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre. Depuis 30 ans, il y a toujours eu des otages français et des grandes figures. On se souvient tous de Marcel Carton, de Marcel Fontaine, de Jean-Paul Kaufmann, de Michel Seurat, plus récemment d'Ingrid Bettencourt, de Georges Malbruno ou de Florence Aubenas. Toutes ces personnes ont participé au rayonnement de la France à l'étranger.
Vous voulez dire que sans otages, la France perd de l'influence?
Absolument. C'est important d'avoir des otages dans la géopolitique actuelle. Ça montre la force d'un pays, sa grandeur, sa puissance. Vous avez déjà entendu parler d'otages slovènes?
Non. D'ailleurs, un sondage a été réalisé à ce propos et à la question « Seriez-vous prêt à prendre un Français en otage ?» 75% des sondés répondent plutôt pas ou pas du tout. Un taux qui monte jusqu'à 95% dans le Normalie.
Oui, il y a une véritable progression de la francophobie dans tous ces pays. Et pour s'en sortir, il faudrait relancer le tourisme dans les zones à risque. Il faudrait multiplier les safaris humanitaires, financer des reportages.
Alors, je vous interromps puisque notre correspondante Claude Dibal nous appelle en direct de Raqqa au Daesh. Claude ?
Oui, tout à fait, Combi. Là, je suis au centre de Raqqa, la capitale du califat, ancienne ville provinciale syrienne. Et on assiste, je pense, à une prise d'otage, hein, puisqu'un grand blond français avec une casquette du PSG est rentré avec des djihadistes dans un café depuis maintenant une heure. Il ne semble pas en sortir. Cela signifierait sans doute qu'un nouvel otage français serait détenu par l'État islamique.
Merci Claude Dibal. Vous nous rappelez si vous avez du nouveau, Bernard Grotta?
Un otage en Syrie juste avant les fêtes de Noël, ça serait vraiment un beau cadeau.
Quelles conséquences à l'intérieur du pays maintenant sur l'absence d'otages français dans le monde?
Perte de confiance de la population, baisse de croissance, augmentation du chômage. Ouais. Mais surtout, la perte d'un savoir-faire. On était très très fort dans ce domaine et aujourd'hui toutes nos agences de négociation sont au chômage technique. Nos cerveaux commencent à fuir vers le Danemark, vers la Chine pour offrir leurs services aux pays dont les ressortissants valent encore quelque chose sur le marché de l'enlèvement.
Alors justement Bernard, nous avons avec nous dans ce studio Stéphanie Colm qui vient de rejoindre le plateau.
Oui, bonjour.
Alors bonjour, vous êtes spécialisée, Stéphanie, dans l'accompagnement psychologique des otages et de leurs familles.
Oui, c'est ça. Oui, hier j'étais avec la fille de Serge. Elle est venue me remercier juste après l'annonce de la libération de son père. Et c'était très émouvant.
C'est sûr.
Ouais. Alors j'ai bien senti que c'était la dernière fois que je la voyais. Vous savez, on nous délient quand même très fort après. Après chaque libération, et c'est la fin d'une relation après tout, hein, une relation intime.
Intime.
Et puis après ça, il faut quand même faire un deuil. Alors bon, d'habitude on se console avec un nouveau patient, mais bon, plus d'otages, plus de patients, quoi. Enfin, je sais plus à quoi je sers sur cette terre. Non, vraiment, non, je sais pas si j'ai déjà connu une période aussi difficile dans ma vie.
Nouveau coupon. Enfin, merci pour ce témoignage poignant. Mais priorité au direct, on retourne à Raqqa, où Claude Dibal, notre envoyé spécial, nous attend. Claude, cette prise d'otage du nouveau?
Oui, eh bien écoutez, je suis toujours devant le café où ce grand français blond est rentré il y a quelques minutes avec des djihadistes. Et là, je crois qu'il s'apprête à sortir. Hein. Je les vois derrière la vitrine. Un 4x4 là, au vide teinté, s'égaré devant l'établissement il y a un instant.
Ah, très bien. Ouais.
Voilà, je les vois sortir. Ils sortent. Ils se font des bises. Ils rigolent ensemble. Là, je comprends pas. Les djihadistes montent dans le 4x4. Mais non, qu'est-ce que vous foutez là? Mais prenez-le, mais qu'est-ce qu'il fait?
Ah, mais non.
Oh non, mais c'est pas possible. Oh, non, bah voilà, ils partent là et le grand blond rentrait dans la boutique de tapis juste à côté là, je comprends pas.
Quelle déception, oh, Claude.
Bon, bah je vous rappelle.
Mega Combi, no more hostage breaking news. No more hostage crisis.
Toujours en direct pour cette édition spéciale sur la crise provoquée par la libération du dernier otage français. Et vous intervenez en direct au 04 78. Nous avons une auditrice qui s'appelle Martine. Elle a 37 ans et elle vient de la Mulatière. Bonjour Martine.
Oui, bonjour.
Allez-y, posez votre question. Martine, vous êtes à l'antenne.
Alors, moi je voulais savoir quels étaient les critères permettant d'être considéré comme un otage.
C'est-à-dire ?
Moi, en fait, mon mari a disparu depuis plusieurs mois, alors qu'il était parti dans le nord Grésivaudan. Et j'ai vu que là-bas, il y avait des terroristes zadistes qui s'étaient installés. Du coup, je me pose des questions.
Alors, Bernard Grotta.
Bon, déjà, les terroristes des ZAD, qu'on appelle aussi des djihadistes, prennent rarement des otages. Ensuite, le premier des critères pour être une cible de kidnappeur, c'est la profession. Qu'est-ce que fait votre mari, Martine ?
Il était chômeur.
Alors rassurez-vous Martine, il n'y a pas de risque.
Ah merci.
On ne prend jamais de chômeurs en otage Bernard ?
Bah non, aucun intérêt pour les ravisseurs. Il y a bien une histoire qui date d'il y a quelques années où un chômeur avait été pris en otage. Ses geôliers avaient fait une demande de rançon à Pôle emploi. Ils n'ont jamais réussi à avoir un conseiller et il est mort sans que personne ne soit soucié de lui.
Alors quelle est la profession idéale pour se faire enlever ?
Le mieux c'est d'être membre des services secrets. Mais journaliste ça marche aussi. Ouais. Même randonneur ça peut fonctionner.
Martine, vous êtes satisfaite de la réponse ?
Ça m'aurait arrangé quand même qu'il soit reconnu comme otage, parce que là, j'ai aucune aide pour le chercher.
Alors, vous savez, malheureusement, tout le monde ne peut pas être otage et la terre est grande. Votre mari, il est peut-être sur une plage des Caraïbes en train de siroter une margarita, ou bien son corps repose au fin fond d'une forêt de l'Isère en état de décomposition avancée.
Allô ?
Oui, Claude Dibal, en direct de Raqqa, c'est à vous Claude ?
Oui, Combi. Alors je suis avec le fameux grand blond qui était tout à l'heure avec les djihadistes et qui n'a pas été pris en otage. Alors est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce qui s'est passé ?
Oui, on a bu un thé, on a fumé une chicha. J'avais vraiment beaucoup d'espoir d'être pris en otage. Mais voyant que ça prenait pas, j'ai sorti un saucisson. Ils ont un peu tiqué, c'est vrai qu'il était un peu gras, en tout cas ça n'a pas vraiment dérapé. Après on a parlé un peu des bombardements, ils m'ont dit qu'ils étaient contre, on n'était pas vraiment d'accord, hein. Mais c'est resté une discussion entre gentlemen. D'ailleurs, Hassan m'a invité à sa crémaillère demain soir.
Du coup, vous allez de nouveau essayer de vous faire prendre ?
Ah oui, je vais faire tout mon possible. Je vais aller à la crémaillère et je pense que je vais mettre mon t-shirt « Je vaux 1 million d'euros » qu'on m'a donné à l'ambassade. J'espère que cette fois, ça va marcher.
Merci, monsieur. Voilà, c'était Claude Dibal à Raqqa pour la Méga Combi.
No more stage crisis.
Ça se confirme, Bernard, il est de plus en plus compliqué de se faire prendre en otage.
Eh oui, plus personne ne veut d'otages français, même sur le territoire de Daesh. C'est vraiment désespérant.
Merci en tout cas d'être venu sur notre plateau. On rappelle le titre de votre livre ?
Oui, Otage FISA, c'est un petit guide pratique pour être ravi rapidement.
Et c'est aux éditions ?
Aux presses universitaires du Gourbi.
Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale. On rappelle qu'il n'y a plus d'otages français dans le monde. Par contre, il y a toujours des familles sans abri retenues dans les gymnases des écoles lyonnaises par des instits et des parents d'élèves. Il y a un rassemblement à 18h30 devant la préfecture pour soutenir le préfet qui va tenter de convaincre les ravisseurs de les remettre à la rue.
Jusqu'à 19h, Méga Combi.
Méga Combi.
Méga Combi.
Prime Time de Radio Zine du mercredi sur Canu.
Love you until it hurts. Just to get you, I'm doing whatever works. You ain't never met nobody that'll do you how I do you. That'll bring you to your knees. Praise Jesus, hallelujah. I'ma make you beg for it, plead for it, till you feel like you breathe for it, till you do any and everything for it. I want you to fiend for it, wake up and dream for it, till it's got you guessing forever and you leave for it. Till they have a case, can I check on your mind and it's nothing but me on it,
on it, on it.
Now it's me time, believe that. If it's yours and you want it, I want it. Promise I need that. Till I'm everywhere that you be at, I can't fall back or quit. Cause this is a fatal attraction, so I take it all or I don't want shit.
You used to be thirsty for me,
right?
But now you wanna be set free. This is the web that you weave. So baby, now rest in peace.
So
I'm gonna love you until you hate me,
right?
And now I'm gonna show you
someone.
Méga Combi vous prend en otage jusqu'à 19h.
La colère ne retombe pas aux États-Unis. Pour la troisième nuit consécutive, des manifestations se sont tenues dans plusieurs grandes villes pour dénoncer les bavures policières et leur impunité.
Des centaines de personnes étaient rassemblées ce jeudi soir à New York pour dénoncer l'impunité de la police. Sur leur pancarte, la phrase « Je ne peux plus respirer », ce sont les derniers mots prononcés par Eric Garner, un père de famille noire interpellé brutalement par des policiers blancs. L'homme est mort étouffé.
Pourtant, un grand jury américain a décidé de ne pas poursuivre le policier blanc Daniel Pantaleo, une décision incompréhensible pour des milliers de citoyens américains.
C'est la deuxième fois en 10 jours qu'un grand jury américain déclare un non-lieu pour un policier blanc ayant tué un civil noir. Des manifestations de colère ont été organisées dans plusieurs grandes villes des États-Unis.
Des milliers de personnes qui crient leur colère avec toujours ce même slogan : pas de justice, pas de paix.
Pas de justice, pas de paix. Il fallait bien qu'on parle des États-Unis pour pouvoir entendre ce slogan sur les chaînes d'infos et que les médias français arrivent à parler de policiers blancs et de victimes noires. Derrière cette exposition médiatique, il y a aussi le travail de militants qui font feu de tout bois pour que cette décision de justice scandaleuse ne reste pas sans réponse. Cette semaine, aux États-Unis, c'est la Week of Outrage. On aimerait bien traduire ça par la semaine des outrages et rébellions, mais pour être honnête, ça veut plutôt dire semaine d'indignation. Toujours est-il que ça part dans tous les sens. Blocage de ponts, mise en scène spectaculaire dans les gares ou les universités, manifs plus ou moins sauvages, soutien médiatique de Kobe Bryant et LeBron James. C'est des basketteurs. Actions de rue et relais sur les réseaux sociaux semblent pas trop mal s'articuler. Et s'il y a eu quelques mobilisations avec des dégradations, suivies de l'habituel cortège de rappel à l'ordre par les journalistes et les politiciens, le débat ne s'est pas pour autant entièrement focalisé sur la prétendue violence des manifestants. Ainsi, à New York, le maire s'est interrogé publiquement, en conférence de presse, sur la sécurité de son fils, non seulement vis-à-vis des criminels, mais aussi vis-à-vis des policiers eux-mêmes. Il faut savoir que ce maire a la particularité d'être marié à une afro-américaine, avec qui il a eu 2 enfants métis. Cette mise en cause des policiers ne leur a pas trop plu, et un porte-parole de la police a estimé qu'au moment où le maire aurait dû soutenir les policiers sans réserve, sa déclaration revenait au contraire à les jeter sous un bus. C'est dans ce contexte que dimanche dernier, Bill de Blasio, le maire de New York, était convoqué en direct sur une grande chaîne de télé pour s'expliquer.
On doit avoir aujourd'hui une conversation honnête dans ce pays à propos du racisme et de son histoire. On doit avoir une conversation à propos de ce qui amène les parents à penser que leurs enfants pourraient être en danger au contact de la police, alors que la police est là pour les protéger. Bien sûr qu'il a des réactions quand il voit une tragédie pareille. Il le voit à travers leur propre réalité.
Mais voulez-vous dire que votre fils a des problèmes avec votre propre police? Regardez, il faut dire les choses clairement, parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension. Ce que les parents qui ont des enfants de couleur ont dû faire depuis des décennies, en particulier les jeunes hommes de couleur, ils doivent leur dire de faire attention quand ils sont contrôlés par des officiers de police. C'est différent pour les enfants blancs. C'est juste la réalité de notre pays. Avec Dante, mon fils, on lui a dit, si un police te contrôle, ne fais pas de gestes brusques, ne cherche pas ton téléphone, parce que, on ne sait jamais, un geste pourrait être mal interprété, juste parce qu'il est un homme de couleur. Et l'enjeu, c'est qu'un jour, tous les enfants puissent être traités de la même manière, et que les policiers ne se contentent pas de nous protéger, mais qu'ils ne présument pas non plus que les jeunes qu'ils ont en face d'eux sont innocents. Beaucoup de familles de couleur doivent avoir cette conversation avec leurs enfants. C'est une conversation douloureuse et pleine de contradictions. On cherche tous des figures d'autorité et on sait que la police est là pour nous protéger. Mais il y a cette peur qu'il y ait cette incompréhension et que le jeune de couleur ne revienne plus jamais.
C'est bien le maire de New York qui s'exprime ainsi à la télé. Bien propre sur lui et membre du Parti démocrate au pouvoir aux États-Unis. Et en oubliant de défendre sa police, en précisant qu'il explique à son fils de s'en méfier, il n'en est pas à son coup d'essai, puisqu'il avait déjà bâti sa campagne électorale sur la promesse d'en finir avec les contrôles aux faciès. Il faut dire qu'avant de Blasio, c'est le milliardaire Michael Bloomberg qui était aux manettes, avec la tolérance zéro comme feuille de route. Bloomberg n'était pas du genre à conseiller à ses enfants de se tenir loin du crime, mais aussi loin de la police. Plutôt du genre à expliquer que si plus de Noirs sont tués par la police, c'est simplement parce que les Noirs commettent plus de crimes.
Il faut se souvenir du règne absolu de la théorie de la vitre brisée dans les années 90-2000, qui faisait du qui vole un œuf vole un bœuf l'alpha et l'oméga de la politique pénale. Pendant la campagne des primaires démocrates pour la mairie de New York, de Blasio a tout misé sur la carte anti-Bloomberg. Puisqu'être un bon politicien nécessite de se construire un personnage, il a choisi d'incarner le rebelle prêt à contester le monopole des traders et des touristes sur la ville, et concentrer son courroux sur ce qu'on appelle ici les contrôles aux faciès. Aux States, ils disent « stop and frisk », arrêter et fouiller.
How many of you all have been a victim of police brutality? Everybody, somebody said everybody, and ain't that the truth? We're gonna keep giving these shout-outs. I wanna give a double shout-out. Stop and frisk right here. Look, stop and frisk happened long time before de Blasio, right?
On est à New York, le 22 octobre de l'année dernière. De Blasio n'était pas encore élu, la mobilisation n'avait pas encore atteint les chaînes d'infos françaises, mais une petite manif était déjà organisée dans le Bronx à l'occasion de la journée nationale contre les violences policières. Avant la manif avait eu lieu un atelier de résistance au contrôle de police. Dans un parc, comme ce jour-là, dans les couloirs du métro, près des centres de distribution de nourriture pour les sans-abri, ces ateliers sont organisés par différents petits collectifs.
It's important to know your rights because if you don't know your rights, then the police can take advantage of you. And it's also
si vous ne connaissez pas vos droits, alors la police peut en tirer avantage.
Give it up for Cav, y'all! How many of y'all know your rights just a little bit more because of that skit? How many of y'all wish you knew some rights when a cop had you in a neck hold or a choke hold?
Donc là, c'était une organisation de la communauté asiatique, le CAV, qu'on entendait raconter son expérience d'atelier spécifiquement dédié aux migrants pour qu'ils essaient de se protéger face aux expulsions illégales du territoire américain. Voilà, ils ont expliqué qu'il fallait avoir conscience que dans un contrôle simple, en fait, le policier n'a pas le droit de demander ton visa. Et donc, cette pratique-là d'atelier permet de mieux connaître ses droits. Et c'est aussi, on peut dire, une expérience corporelle, puisque les participants à chaque fois sont invités à crier dans la rue, comme ils le feraient s'ils avaient à visibiliser un contrôle dont ils seraient victimes. Et crier dans la rue, cet endroit où la police vise justement à discipliner les corps, c'est pas un acte anodin, ça permet de reprendre confiance en soi. Par l'occasion qu'ils offrent de discuter publiquement du problème des contrôles, ces ateliers sont aussi un outil pour convaincre la population d'affirmer haut et fort que la police aujourd'hui est plus dangereuse que rassurante, même pour ceux qui n'ont rien à se reprocher. Depuis plusieurs années, les activistes américains organisent aussi du cop-watching, inspiré des premières actions des Black Panthers à la fin des années 60. Le cop-watching, ou surveillance de la police, consiste ici à créer des groupes déambulant dans les quartiers pour dissuader et, le cas échéant, documenter le harcèlement policier. Une équipe se compose dans l'idéal de 5 personnes, dont 2 munies de caméras. L'une filme les policiers tandis que l'autre filme la première caméra, au cas où elle serait elle-même prise pour cible. Le temps passé dans la rue quand la police n'est pas en action est loin d'être perdu. Comme pour les ateliers d'entraînement au contrôle, il s'agit avant tout de discuter avec les autres habitants du quartier du rôle de la police. On construit ainsi petit à petit une politisation des inquiétudes que chacun peut ressentir face aux forces de l'ordre. Nombre de parents s'inquiètent alors plus des contrôles à répétition subis par leurs enfants que de la menace hypothétique d'être agressé par un jeune délinquant. L'image de la victime de l'insécurité tend à s'effacer derrière la solidarité avec les victimes du harcèlement policier. Un travail de terrain de longue haleine pour poser une affirmation simple, la police est dangereuse. Une affirmation que même le maire de New York a fini par reprendre à son compte à la télé le week-end dernier. Bon, ceci dit, les violences policières aux États-Unis ne sont pas prêtes de s'arrêter. Un an après l'élection de de Blasio, les contrôles de police ont bel et bien diminué, mais ils continuent de cibler très majoritairement les personnes de couleur. Et au-delà des quelques cas de morts médiatisés, les arrestations violentes continuent d'être le lot commun dans les quartiers pauvres. Le maire annonce vouloir équiper les policiers de caméras individuelles qui filmeraient leurs interventions et les soumettre à une formation de 3 jours pour apprendre des techniques de désescalade de la violence. Pour l'instant, les policiers new-yorkais font toujours preuve d'autant d'agressivité et sont bien défendus, si ce n'est par leur maire, au moins par leur porte-parole. À propos du gars qui est mort étouffé après avoir répété 11 fois qu'il n'arrivait plus à respirer, le porte-parole a déclaré « Notre règle, c'est que si tu peux parler, tu peux respirer ». ajoutant qu'il ne fallait pas tenter de résister à un contrôle de police et que c'était là la vraie source du drame. Déclaration outrancière venue de la police qui nous ramène à ce qui est malheureusement l'ordinaire du climat politique en France, notamment depuis la mort de Rémi Fraisse, tué par une grenade offensive lancée en toute régularité par un gendarme.
Ce que commande l'état de droit quand la mort survient dans de telles circonstances, c'est la recherche de la vérité. La justice a été saisie. Avant même qu'une enquête n'ait été conclue, je n'accepterai pas la mise en cause de l'action des policiers et des gendarmes qui ont compté de nombreux blessés dans leur rang. Je n'accepterai pas ces violences et ce qui s'est passé à Gaillac. Je n'accepterai pas la mise en cause ce qui s'est passé à Albi, ce qui s'est passé, monsieur le Premier ministre, à Nantes, dans votre ville. Je n'accepterai pas la mise en cause de l'action des policiers et des gendarmes. Et je n'accepterai pas ces violences, de l'action des policiers et des gendarmes. Il n'y a pas de place dans notre République et dans la démocratie pour les casseurs. Et là aussi, la justice doit passer. Je n'accepterai pas la mise en cause de l'action des policiers et des gendarmes. Et je n'accepterai pas ces violences.
Ouais, bah lui, on peut dire qu'il a pas vraiment fait le choix du personnage rebelle qui va se mettre à défendre les pauvres après tant d'années d'attaques de la droite. Ça fait quand même un sacré bol d'air de plonger un peu dans les discussions d'outre-Atlantique. Des responsables politiques qui posent clairement l'action de la police comme un problème, voilà qui nous dépayse un peu. Ici, Christiane Taubira s'est même permis de soutenir ouvertement les mouvements américains, tout en faisant un silence complet sur l'affaire Rémi Fraisse. Mais ce silence dégueu aura peut-être au moins servi à quelque chose. C'est de là que sont partis Chloé Fraisse et Amal Bentouti pour s'exprimer ensemble. Les sœurs respectives de Rémi Fraisse et d'Amine Bentouti, mort d'une balle dans le dos tirée par la police, attaquent la ministre dans une tribune co-signée avec Farid El Yamni et Raymond Gurem. C'est un geste parmi d'autres qui participe à construire le mouvement qu'il nous faut contre les violences policières, des ZAD au quartier populaire.
Bang for freedom. Fuck the high school. Burn the prisons. Ride on the record label. Jump your A&R. Fuck the contract. Grease the AR. Get your bank up. Stick the banks up. Break the handcuffs. Invade the campus. Steal some pampers. Smash the cameras. Punk the police. Grab his hammer.
You wonder why we feel like fuck the law. You wonder why we ride up on the wall. You wonder why we burn the cities down. Cause we don't give a fuck, the time is now. You wonder why we feel like fuck the law. You wonder why we ride up on the wall. You wonder why we burn the cities down. Cause we don't give a fuck, the time is now.
Cock your rifle, rep your people. Fuck probation, kidnap your PO. Run the roadblock, smash your TV. Fuck with DP, steal the CD. Kiss my black ass, jail the judges. Hang the lawyers, ride for justice. Keep it gangsta, kill the snitches. Get rid of the middleman and control your business.
You wonder why we feel like fuck the law. You wonder why we ride up on the wall. You wonder why we burn the cities down. Cause we don't give a fuck, the time is now. You wonder why we feel like fuck the law. You wonder why we ride up on the wall. You wonder why we burn the cities down. Cause we don't give a fuck, the time is now.
Vous écoutez Méga Combi et même si on fuck the law, il est 18h29 sur Canu. Salam El Kobri.
Salam Combi, tout de suite des nouvelles stroboscopiques.
Et la libération de Serge Lazarevitch aurait été de courte durée.
Et oui, l'avion où se trouvait Serge Lazarevitch vient d'être détourné alors même qu'il rentrait en France et plusieurs revendications nous sont parvenues. Daesh, Boko Haram, mais aussi un groupe qui se réclamerait de la compagnie créole Canal Historique. Tout ça reste très confus, le Canu Info se chargera de développer plus dignement cette information à 19h.
À l'international, les combats continuent à Kobané, mais aussi un peu partout en Libye, au sud de la Somalie, à Emerson, dans le nord Kivu, dans le sud Kivu, dans l'ouest du Kivu, mais aussi dans l'est du Kivu, dans le Kansai et les montagnes d'Afghanistan et dans les galeries de la guerre du Nord. Bref, le mariage pour tous continue d'entraîner le monde vers la Troisième Guerre mondiale.
En France, l'interdiction des feux de pneus remise en cause par Ségolène Royal.
Et oui, qui n'a jamais passé un agréable moment autour d'un bon feu de pneus Michelin arrosé d'essence pour se réchauffer ou pour partager une merguez entre amis en pleine nature? Oui, mais voilà, les feux de pneus pollueraient l'atmosphère et des mesures gouvernementales pour les interdire avaient été prises.
Dont acte, a décidé la ministre, pour qui la convivialité doit rester le maître mot dans notre société si individualiste. La mesure ne devrait toucher que les feux de pneus à l'intérieur. Et c'est vrai que dans un salon, la fumée est un peu dérangeante et met longtemps à se dissiper.
Oui, il reste donc autorisé en extérieur, dans les montagnes du Pilat, où les feux de pneus sont traditionnels depuis l'Antiquité. On se réjouit de cette décision. Et de multiples feux de pneus de joie ont été allumés ce soir sur les crêtes.
Des nouvelles de filaments, la sonde gastrique toujours arrimée à l'intestin grêle de Samuel Poisson.
La sonde poursuit ses recherches et a noté la présence de Kinder Bueno, mais aussi de restes de pommes de terre, d'anchois, de chips, d'olives, noyés dans un flot de 8-6.
Oui, au CNRS, ces données sont analysées minute par minute et permettront sans doute de mieux comprendre ce qui se passe immédiatement après la junk food. Filaments devraient être expulsés dans un flot de macaroni Leader Price avant demain matin. Mais d'ici là, elle va continuer à émettre et donner des informations fondamentales sur le transit intestinal du sujet.
À Lyon, bilan mitigé pour la fête des Lumières. D'après le Progrès de ce matin, 3 millions de visiteurs, mais seulement 38 interpellations.
Et oui, très très peu pour une grande ville européenne. La préfecture de police s'est dit déçue du travail de ses agents et la prime de Noël a été supprimée dans tous les services de police. Ce n'est pas une mesure punitive, indique cependant la préfecture, mais ça devrait booster les équipes pour les fêtes de Noël.
Les intoxications liées au vin chaud frelaté ont quant à elles fait plus de 400 victimes et 1200 personnes sont toujours hospitalisées. Mais selon le gouvernement, il n'y aurait pas de lien direct entre la consommation de vin chaud et le virus Ebola. Et puis cette année, la dépense d'énergie électrique de la Fête des Lumières aurait permis d'électrifier une ville du Sahel pendant un an. Mais pourquoi faire, me direz-vous? On n'a pas tant besoin que ça de lumière dans la brousse. Et puis, il fait toujours chaud.
Et alors, qu'est-ce qui est devenu la grosse boule à facettes de Fourvière?
Eh bien, elle a été jetée par avion dans le désert du Niger, à proximité du petit village de Tombolo, où on devrait bien faire la fête ce soir.
La ZAD de l'île Barbe, ça continue.
Oui, la mobilisation continue contre l'Aqualand Magic Silure de l'île Barbe, un projet controversé qui a coûté des millions au Grand Lyon et qui vise à revaloriser les silures et mieux les faire connaître aux touristes internationaux.
Oui, un immense bassin devrait être creusé pour accueillir baigneurs et silures d'ici 2016. Et menaçant d'ailleurs l'écosystème de l'île Barbe, dont le nombre de barbus ne cesse de décroître depuis déjà des années. Si on ne fait rien, il n'y aura plus aucun barbu sur l'île en 2016, s'inquiètent les opposants, qui invitent par ailleurs à faire le blocus de l'île dès ce soir à partir de 19h30. Venez en barque.
Bavure, exposition exceptionnelle à l'hôtel de région.
Oui, à ne pas manquer, une exposition internationale sur les plus belles bavures policières du monde, qui ouvre ses portes pour les vacances de Noël avec de très beaux films de caméra surveillance, la galerie des armes offensives et une animation matraque télescopique pour les plus petits.
Et puis, il nous a quittés.
Et oui, Pichoun, le dernier brontosaure qui vivait sous la passerelle Raymond Barre, a été dégommé ce matin à l'aube au lance-roquettes. L'ouverture du musée des Confluences pourra donc se faire dans des conditions de sécurité optimales. D'ici là, le caca de ptérodactyle accumulé pendant le temps du chantier sur les vitres devra aussi être nettoyé au Karcher. Mais on nous assure que le 20 décembre, tout sera nickel pour l'ouverture. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et puis si, comme moi, vous êtes passé complètement à côté du Téléthon cette année, et si vous voulez quand même faire un don, transmettez vos chèques à l'ordre de Radio Canu. On transmettra.
La prime team de Méga Combi.
Tous les mercredis à 18h.
Sur Canu.
Mais moi pour sortir de la mouise et du boulet qui entravait mes guilles, pas torturer ma tête, j'ai pris mes chevilles. C'était danser pour être savant, bouger ses jambes, voulait voir passer devant. Une était Clyde et l'autre Bonnie, pour éviter au tempo l'agonie. Sur des petits pas de danse, des petits pas de danse, Fonquet, des petits pas de danse, des pas de danse. J'ai fait bosser mes deux jambes et pendant des heures en syncopée.
sur Tam la Motam, j'ai dansé. On a pris la scène comme on voit le maquis. Sans armes mais comme des Cherokees. Et pour se sortir du cachot, pas le choix, fais péter le show. Sur des petits pas de danse, tu bouges pas, des petits pas de danse. Ok, des petits pas de danse, c'est pas du star, pas du star. Ok, des petits pas de danse, tu bouges pas, des petits pas de danse. Ok, des petits pas de danse, c'est pas du star, pas du star.
Méga Combi, 7e année de détention.
On est dans Roybon.
Dans le village, ils sont tous d'accord.
Dans le village. Et là-bas aussi, regarde. Oui au Center Park. Center Park, une chance inouïe. Et là, c'est quoi? Center Park, un avenir pour notre territoire.
Avancez.
Hop, on est arrêté par la police.
C'est un bonjour.
Bonjour.
Pas
ouais. Et qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi vous contrôlez du coup?
Oh, c'est juste un contrôle d'identité.
Ça n'a rien à voir avec la manifestation.
Pour voir un peu les gens qui sont ici. Et voilà, c'est tout mon point.
Par exemple, là, vous avez gardé mon nom ou...
Ah non, aucunement.
Non,
juste
okay.
Un contrôle de votre véhicule. Okay. Voilà, tout est en règle. Voici le monde s'arrête.
C'est par où du coup?
Tout droit, vous montez, il y a le parking du lac. Ce sera là.
Vous y venez après?
Je crois pas, je pense qu'on va passer la nuit ici. Nous.
Ok. Voilà. Bonne nuit.
Méga Combi.
Oh, ok.
Reportage.
Bonjour. Vous êtes riverain, vous, ici?
Oui.
Et du coup, c'est souvent qu'il y a du monde comme ça qui arrive sur, sur cette petite route?
Bah,
Non.
Que le projet Center Park se fait, oui. On voit beaucoup plus de monde. Nous, on est pour le Center Park, pour la commune, pour tout.
Bah après, en 10-15 voilà. Ans, ça a changé, Roi. Bon, hein, c'est plus ce que c'était. Les gens partent d'ici parce qu'il n'y a pas d'emploi, quoi, en fait.
Et puis, il y a des commerces qui ferment, les gens qui sont pour le Center Park, c'est pour ça, c'est pour dynamiser un peu le village meurt jour en jour. Et voilà, c'est un projet qui s'intègre complètement dans l'environnement.
Et du coup, il y a pas mal d'opposants qui sont là du coup depuis quelques temps.
Oui, qui bloquent un peu les travaux. C'est râlant. Franchement, c'est râlant parce que ils n'ont jamais entendu parler de cette commune. Et dû à Center Park, ils se permettent de bloquer des travaux alors que c'est pas une décharge, c'est pas une centrale nucléaire.
Ah, c'est méchant, quoi. C'est juste un centre de loisirs, qui va nous amener un peu d'emploi et de renommée dans la région, quoi. En fait. Même si jeunes qui manifestent là, c'est pas forcément des jeunes qui travaillent. Mais des fois, s'ils habiteraient ici, là où on est maintenant, ils réfléchiraient à deux fois. Ils diraient, c'est vrai, on aime la nature, mais sans travail. Franchement, moi, j'aime la nature. Hein. Ça, c'est une centrale nucléaire. Ça serait nom d'office, hein. Mais bon, ça reste un centre de loisirs qui a quand même...
Et puis Center Park,
Center Park, qui a les propriétés de construire dans les respects de l'art et de replanter après par la suite. Mais ce qu'il nous faut ici, pour tout le monde, pour les jeunes, pour les moins jeunes, c'est du travail.
Vous faites quoi?
C'est comme ça. Hein. Moi, je travaille à l'hôpital de Roybon. Je m'occupe des personnes, moi. Accompagnement à la personne.
Et moi, être soignante. Voilà.
Vous me laissez un prénom ou un pseudonyme si vous voulez rester anonyme?
Bah, Pharaon, moi.
Marjorie, voilà.
Ah, mais bon, c'est bête. Faudrait pas que ça déborde pour des bêtises.
Ouais.
Moi, j'ai peur de ça.
C'est dommage.
Faudrait pas
qu'il y ait
que ça déborde que ça déborde pour des bêtises, quoi, en fait. Hein. La vie au barrage de Siven, ça a été ça. Hein.
Sur la zone du testé, la police a tué un jeune camarade. On ne va pas l'oublier. L'État est assassin. Des crimes dans tous les coins. Si terroriste existe, c'est le premier de la liste.
Eh bien, 18h, fanfare et vin chaud. Et 19h, départ de la marche en direction du chantier. Et à 21h, départ groupé du chantier pour redescendre ici. Et puis on termine par une soupe en bas pour se réchauffer. Là en gros le mot d'ordre c'est on part ensemble, on revient ensemble, on laisse personne tout seul. Et puis ça va bien se passer.
Flambeau distribution.
Les flambeaux sont en train de s'allumer.
Du coup quand ils sont bien allumés, on peut
peut-être se manager. Est-ce que quelqu'un
m'en prend une? Tu as l'air super équipé toi pour cette retraite au flambeau. Je vois que t'as un énorme sac, des super shoes de rando.
Bah, j'étais là dimanche dernier, il pleuvait et on avait de mauvaises conditions. Il valait mieux être équipé. Comme là, c'est une marche de nuit qui doit faire 3-4 degrés. Avec le vent, ça fait encore plus frais. Et je pense qu'on est parti pour 3 heures de marche à peu près. Ah, j'ai amené de quoi faire du bruit aussi. Puis j'ai amené de la nourriture pour soutenir le mouvement parce qu'ils en ont besoin là-haut.
Toi, t'es du coin ?
Je suis à 30 km de là. Je suis céréalier, mais une petite exploitation, mais on est tous concernés par le problème de raser, je sais plus, 150 hectares, là, enfin. Bon, mais je crois que ça va bouger, là, on va y aller aussi.
C'est parti pour la retraite au flambeau.
Dans l'herbe tendre.
C'était le 6 décembre dernier. Le rendez-vous était donné sur le parking du lac de Roibon, situé sur le plateau de Chambaran, en Isère, pour une marche au flambeau. Le but de cette marche, c'était soutenir la mobilisation contre un nouveau grand projet inutile. La construction d'un Center Parks, un énorme centre de loisirs entouré de barbelés dans une zone forestière située entre Lyon et Grenoble, qui devrait ouvrir ses portes en 2018. Center Parks appartient au groupe Pierre et Vacances, le numéro 1 européen du tourisme de proximité. Il est l'heureux propriétaire de 25 parcs en Europe, dont 6 en France. Celui de Roibon devrait être un domaine mid-size. 1021 cottages sur 200 hectares. Des petits Center Parks, quoi. Seulement 120 hectares de zone humide dégradée, juste 10 fois la superficie du barrage de Sivens. Et c'est pas tout. En plus de petites cabanes en bois, le site accueillera un Aquamundo, un paradis tropical de 9000 mètres cubes, maintenu à 29 degrés toute l'année. Depuis 2007 et le début de l'opération Pierre et Vacances, les opposants ont tenté à plusieurs reprises d'en retarder la construction, en déposant de nombreux recours. L'impact environnemental déplorable du complexe a d'ailleurs fait l'objet de plusieurs avis négatifs, de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, de la Direction régionale de l'environnement et du Conseil national de protection de la nature. Fin juillet, le projet a même été retoqué par la commission d'enquête publique au titre de la loi sur l'eau. Mais ces avis ne sont que consultatifs, et c'est le préfet de l'Isère qui reste le seul décisionnaire. Et oui, le 16 octobre dernier, le préfet a finalement publié 2 arrêtés au titre de la loi sur l'eau et des espèces protégées, autorisant de fait Pierre et Vacances à commencer les travaux. La société de tourisme n'a pas perdu de temps et les travaux ont commencé 4 jours après, le 20 octobre. Le préfet n'est pas le seul soutien à ce projet pharaonique. Des habitants de la région, qui est en difficulté économique, tentent de dénigrer la mobilisation des opposants. Alors c'est vrai, ces zadistes, bon, c'est toujours les mêmes, quelques anarchistes écologistes, des gauchistes de merde mangeurs de kaki, quoi. Ouais, bon, sauf que les appels à contrer ces projets coûteux, polluants, inutiles donc, pullulent, fourmillent, foisonnent. L'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, le barrage du Testet, la ligne TGV Lyon-Turin, les Center Parks en Isère, mais aussi en Saône-et-Loire. Et oui, là-bas aussi, la construction d'un autre Center Park se prépare à 50 km seulement de Mâcon. Bon, ok, faire le compte de ces multiples projets n'est pas très réjouissant en soi. Mais quand même, comment ne pas s'enflammer aux côtés de ces zadistes et de tous ces opposants aux infrastructures géantes ? Prôner la destruction sous prétexte d'entrer dans la modernité, de gonfler l'économie ou de créer des emplois, lâcher l'affaire, on n'y croit pas. À Roibon et ailleurs, on s'engage, on lutte, on se rassemble. On se transmet le flambeau, quoi.
Je suis là pour défendre la forêt des avenirs. Ça fait 8 ans que je suis là, ça fait 8 ans que je la pratique quotidiennement pour aller voir les oiseaux, les cerfs et tous ces animaux qui sont dans la forêt. Et je la connais très très bien. C'est à la fois une grande futaie où il y a de beaux chênes et des sous-bois assez profonds avec des petites combes, de la mousse et des tas de choses. Beaucoup d'oiseaux, énormément d'oiseaux. Et il n'y a rien de très artificiel là-dedans. Il n'y a pas de plantation de résineux, il n'y a pas de choses comme ça. Les chemins étaient autrefois des tout petits chemins cavaliers. Et puis là, depuis le 20 octobre, c'est devenu un invraisemblable foutoir avec des grosses machines. Ça a été défoncé de partout avec des ornières pleines de boue, de 1 mètre d'épaisseur. tous les arbres ont été rasés, plus d'un hectare rasé par jour. C'est un scandale, c'est absolument atroce ce qu'ils ont fait là. C'est honteux.
Donc le maître d'ouvrage Pierre et Vacances, en échange de cela, restituera 40 hectares supplémentaires de zones humides.
Serge Perrault, maire de Roibon, France Inter, 6 décembre.
La première activité en France, c'est le tourisme. Donc on aurait un centre de touristes à Roibon, donc qui s'incorporerait complètement dans le paysage.
Et alors vous n'avez pas envie le soir d'aller vous faire un petit bain à 29 degrés dans une piscine du Centre Park?
Ah, surtout pas. Surtout pas. Une piscine comme ça, c'est une aberration écologique. 29 degrés quand il fait moins 15 dehors pendant 3 mois, c'est de la folie.
La bulle, eh bien, écoutez, en bilan carbone, on peut faire aussi des milliers de personnes qui vont venir à Roibon, qui ne prendront pas l'avion pour aller en Tunisie ou pour aller, je ne sais dans quel pays. Donc ça me préoccupe pas du tout. Voilà.
Non, non, c'est de la folie cette piscine tropicale, chauffée toute l'année à grand renfort d'énergie pour 3 touristes qui ont envie de se sortir. Non, c'est de la folie.
Et c'est reparti, on y retourne, allez les gars.
Oh non, tu m'éclabousses, et puis elle est trop froide.
Moi j'en ai plein les mocassins, j'ai les pieds gelés.
Eh les gars, moi je connais un endroit où l'eau est à 29 degrés toute l'année. Et en plus, il y a des toboggans. Je me demande un peu ce qu'on fout ici.
C'est vrai ça.
L'été indien arrive à Center Parcs.
Il y a les gens de la ville de Roibon qui sont un peu désemparés parce que depuis 20 ans, leur village est en perte de vitesse au point de vue économique. Il n'y a pas d'emploi. Il y a des élus qui leur permettent de croire à des espèces de chimères comme quoi ce Center Park apporterait de l'emploi.
Il y a 450 équivalents temps plein, comme on dit, et puis des emplois précaires, comme il est dit, mais des emplois précaires, nous, à Roibon, il n'y a pas d'emploi. Donc faire un emploi à mi-temps à la cantine de Roibon, faire un mi-temps à Center Park à la journée, ça fait un emploi plein. C'est ce qu'on demande aussi.
Non, il faut être sérieux. La question des emplois pour les femmes de ménage est un vrai scandale. À 9 heures par semaine, payer 270 euros par mois, du tourisme aussi mal payé. Nous sommes dans la même situation à Roibon que les peuples en voie de développement quand ils accueillaient il y a 20 ou 30 ans des villages du Club Méditerranée ou d'une autre firme. C'était bien le différentiel de niveau de vie entre les gens qui venaient en vacances et les gens qui faisaient le service qui assurait la rentabilité de ces villages de vacances. C'est bien ce différentiel qui est le leurre dans cette affaire. Et les élus qui argumentent sur l'emploi trichent, soit par incompétence, soit par cynisme.
Grâce à Center Park, j'aurai au moins une forêt qui sera protégée et il y aura une clôture qui protégera la forêt.
Je suis naturaliste et ça fait 8 ans que j'écume cette zone. Et dès le départ, soit par les chasseurs, soit par les observateurs des oiseaux, on a été mis au courant de ce projet infâme. On a essayé de le combattre par des moyens légaux. Et maintenant, il faut passer à une autre forme d'action qui n'est pas aussi claire que celle qui se joue dans les prétoires. Elle est un peu plus compliquée parce qu'il y a à la fois des gens qui sont là pour occuper le terrain, d'autres qui sont là pour manifester leur soutien. Il faut avoir une grande admiration pour ces jeunes gens qui sont là, je pense, tous des idéalistes qui campent là par moins 1 ou moins 2 degrés depuis maintenant une dizaine de jours. Il faut avouer que ça force le respect.
Oh oui, entends-tu les voix de celles qui luttent et s'élèvent? Vois-tu les manifs, les émeutes et les actes qui s'enchaînent? Oh oui, révolté, ça résonne de tous côtés, c'est l'alarme. Ce soir dans les bois, tous ces cris et ces flambeaux sont nos armes. La 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 la.
Méga Combi.
Alors c'est très joli sur cette petite route qui monte un flanc de montagne. Il y a pas mal de monde quand même.
Reportage.
Dizaines et dizaines de flambeaux de gens qui s'enfoncent dans la nuit, dans la forêt, qui montent vers le chantier du Center Park.
Cela, conseil général, conseil régional, il file des millions pour Center Park, un groupe privé, Pierre et Vacances. C'est 7 millions du conseil général, 7 millions du conseil régional. Les 14 millions donc, que donnent la région et le conseil général. Et il serait plus utile à rénover le système électrique du sud Grésivaudan,
L'année dernière, on est resté 2 jours, voire 3 jours, certaines communes sans électricité. Il y avait 50 cm de neige, hein, en Rhône-Alpes. Hein. Tu fais bon. Tu vois, pour les écoles, ils n'ont pas de sous pour les cantines. On est obligé de monter des associations pour les crèches, pour les garderies. C'est tous les habitants qui sont obligés de s'investir, de trouver de l'argent et tout, parce que les communes n'ont pas de sous. Pareil, on n'a pas de maternité à Saint-Marcelin. Ils ont fermé une maternité à Saint-Marcelin. Donc, t'es obligé pour accoucher, t'es un roman. T'as 3 quarts d'heure, t'as Voiron, 3 quarts d'heure, Grenoble, 1 heure, voire 3 heures si t'as les bouchons. Enfin, voilà, on n'a pas de maternité, on a des écoles miteuses, on n'a pas de réseau électrique, et par contre, on a des millions pour le Center Park. C'est fabuleux, je trouve. Moi, je fais du maraîchage bio et tout avec un gars, on vend des paniers à Grenoble. Ben, moi, je préférerais vendre mes paniers pour les gamins, pour les écoles du coin, quoi.
Center Park, dégage, résistance et sabotage, Center Park.
Batauge. Il neige. J'ai pas pris mes bottes. Je vais avec mes chaussures trouées. Bientôt les pieds mouillés. On arrive sur le chantier.
On est là.
Je tape sur les algécos.
Je pense qu'ils sont en train de mettre la forêt dans le chantier et d'enlever le chantier de la forêt, si j'ai bien compris. Ils enlèvent dans des algécos tout le matos. Et je pense qu'ils s'apprêtent à mettre des grosses branches dans les algécos, mais je suis pas sûre. Ça fait des jolies flammes, parce qu'il y en a qui tapent avec leur flambeau. Ça fait des étincelles, c'est joli.
C'est la base des algécos, c'est là où les ouvriers stockent leur matos. C'est là où tous les matins on vient pour discuter avec eux et leur expliquer qu'on veut pas qu'ils bossent. Il y en a certains qui s'énervent, il y en a certains qui comprennent. Eux ils défendent leur journée, leur thune, tout ça, ça les rend agressifs. Nous on est là, on est solide, on est bien dans nos baskets. C'est pas nous qui nous énervons. C'est comme ça que ça se passe en général le matin.
Parce qu'il y en a qui font ça, qui font que nous on se divise en se barrant.
Non,
Il y a plein de gens comme vous qui soutiennent pas ce qui est en train de se faire, mais c'est pas pour ça qu'il faut se diviser et se barrer.
C'est pas divisé, hein.
Il n'y a pas de division, il y a plusieurs modes d'action et c'est tout.
Bah voilà.
Qui se complètent.
Déjà marcher comme ça pour une connerie comme ça me répile. Ouais. Après ça casse.
On fait un groupe.
C'est, ils ont sorti
pour
les armoires.
C'était plus sympa parce qu'on voit rien. On arrive. Ouais.
Ah si, ça sert. De toute façon, dès qu'on freine l'avancée de leurs travaux ou leurs conditions de travail.
C'est pas des armoires des ouvriers qui vont changer.
Ah mais c'est une multitude de plein de petites choses. Par exemple, cette route là, ils l'aménagent tous les jours pour pouvoir amener leurs machines. Et nous, on fait des tranchées dedans. Quand ils ont leurs outils ou dégonfler leurs pneus, ça permet de freiner les choses. Parce que les dossiers, pendant ce temps-là, ils travaillent d'une institution à une autre, mais en attendant, les ouvriers, ils bossent vraiment, sinon on ne fait pas de petites actions.
C'est que là, au niveau des médias, ils vont s'emparer du truc, ils vont tout péter.
Oui, ils prendront les images qu'ils prendront, mais c'est pas grave.
En tout cas, ce n'est pas une fuite, on a participé, maintenant on rentre gentiment.
Ouais. Moi, je dis juste que c'est mieux qu'on rentre tous ensemble, quoi. De toute façon, je pense qu'il va y avoir plein de gens comme vous qui vont plus se sentir bien là-bas et qui vont avoir envie de partir.
C'était prévu, ça, vous aviez...
Non. Non, c'était pas prévu.
On n'abandonne pas, mais...
Ça marche, mais j'espère que ça ira sur le retour. Ciao. Qu'est-ce qui t'a ramené ici, toi, du coup ? Une initiative collective qui était intéressante. Il y a un projet absurde. Que les gens commencent réellement à s'organiser. Que justement, les divisions entre les zadistes et les non-zadistes commence tranquillement, après un mois, à s'effacer. Il y a de plus en plus de bons citoyens qui disent que les zadistes sont utiles. Et nous, on est très contents de recevoir l'aide des citoyens. Et heureusement qu'on existe les uns grâce aux autres. Le Pierre et Vacances, il est complètement global aussi. Il est tout aussi délocalisé que les zadistes qui viendraient des États-Unis pour nous aider. Voilà, non, mais c'est bien qu'il y ait des gens du coin et c'est bien qu'il y ait des gens moins du coin qui soient aussi légalistes et que tout ça, ça fait un limello complexe et solide, quoi.
Ils ont prévu de construire un aquamondo avec des piscines et des jacuzzi à 29 degrés. J'aime bien.
Le mercredi 18h,
Méga Combi Prime Time.
Prime Time, Prime Time, Prime Time, Prime Time, Méga Combi.
Confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as. A morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as. John's got Brewer's crew, he gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Who's that gut lord marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise. Except on Wednesdays when I get rudely awakened by the dustman. I put my trousers on, have a cup of tea, and I think about leaving the house. I feed the pigeons, I sometimes feed the sparrows too. It gives me a sense of enormous well-being.
C'est Méga Combi, l'émission qui coupe les disques.
Radio Canu présente.
Suite à une tentative de coup d'état avortée à la tête de l'armée sandiniste de libération des Monts du Lyonnais, le sous-commandant Marco a été exilé par le maréchal Valls, qui l'a condamné à errer dans le labyrinthe européen.
Le sous-commandant Marco à Bruxelles.
Le sous-commandant Marco ne pourra s'en sortir qu'en dénichant une carte au trésor, la carte de la justice sociale.
Il n'y a pas tant de trains que cela qui s'arrêtent en gare de Cornavin. Il faut dire que Genève n'est qu'art accessible. Une ligne file vers Lyon à un train de sénateur, une autre vers Lausanne, au même rythme. Et c'est bien ainsi, car Genève n'apprécie guère les trépidations. La ville s'enroule calmement autour de son coin de lac, tournant le dos à la France qui la colle, qui voudrait pourtant tellement la serrer dans ses bras puissants et menaçants. Voilà deux siècles que Genève s'est assoupie dans le giron de la Confédération helvétique et elle ne semble pas s'en porter plus mal. À la fois au centre du labyrinthe et en dehors, elle en est le système rénal extérieur. Elle draine le liquide, filtre le liquide, réinjecte le liquide. Je n'ai pas de liquide à drainer. Je cherche toujours une sortie au labyrinthe, la carte de la justice sociale. J'essaie cette fois de m'évader par le plafond. Et c'est à Genève, berceau de la Croix-Rouge, que l'ONU a installé son haut commissariat aux droits de l'homme. J'ai rendez-vous avec Leïla Nifara, rapporteur spécial de l'ONU au logement. Voilà pourquoi je me retrouve dans la gare de Cornavin, un équipement démesuré au regard du volume de voyageurs. Il s'agit en réalité d'un centre commercial construit avec les deniers publics au prétexte de gare. Et comme l'appétit vient en mangeant, les promoteurs envisageaient de raser les bâtiments situés au-dessus de la gare pour étendre le centre commercial déguisé en gare jusqu'au quartier populaire des Grottes. Les habitants se sont mobilisés, les immeubles vides ont été squattés, le projet a été abandonné. C'est heureux, car c'est là que je dormirai ce soir. Chez Seb, le poumon joyeux de Préambule, centre social délirant des grottes. Parce qu'aux grottes, tout doit être délirant. Les habitants ont construit nuitamment des bacs à fleurs en briques et ciment pour empêcher les voitures de se garer. Il y a un four solaire, des poules au pied du HLM. Aux grottes, quand on doit amarrer un chapiteau sur un parking, on plante les pieux dans le bitume. Aux grottes, les enfants tournent sur un manège à traction parentale ou sur l'enchevêtrement de pédales et de dérailleurs fabriqués par les dingues du guidon de Péclo 13. Et Seb jubile. Son métier, sa vie, c'est de faciliter tout ça, d'aider les émergences, de faire attention aux gamins, aux vieux, en libérant la joie, en libérant la folie. Je suis heureux de le retrouver. Voir Seb, c'est recharger en bonheur des bouteilles d'oxygène avant de replonger dans le labyrinthe. Mais les grottes, ce sera ce soir, plus tard. Avant, je dois passer par l'ONU, chercher la carte de la justice sociale. Il y a là des fonctionnaires uruguayens, sri-lankais, italiens, afghans. Ils font partie de UNIS, la délégation de l'ONU auprès de l'Union Européenne, où ils dépendent du haut commissaire aux droits de l'homme ou de la rapporteure spéciale au logement. Il faut se servir du logement pour apaiser les tensions communautaires dans les pays au bord de la guerre ou en reconstruction. Il faut aider les Roms, les sans-papiers, les pauvres, les femmes qui sont encore interdites d'accès à la propriété dans nombre de pays. Il faut. Et rien. Alors je viens proposer une méthode pour être moins incantatoire et obtenir plus d'avancées concrètes, pour mieux orienter l'argent, contrôler son usage. Les hommes ont des boutons de manchette au bout de leur chemise bleue. on adopte le ton feutré de la diplomatie. La rapporteure spéciale gigote sur sa chaise, elle n'est pas au mieux. Leïla Nifara est canadienne, la petite quarantaine, et elle a passé toute sa vie à militer, défendre les droits civiques, les pauvres, lutter contre les industries polluantes. Elle dispose d'un mandat de 4 ans à l'ONU, mais ce n'est visiblement pas son monde. À la faveur d'un café, nous discutons un peu, une possible alliance entre l'ONU et la société civile pour prendre les États en étau, pour dézinguer quelques salopards dans le big business ou à la tête des gouvernements. On rêvasse un peu. Je lui demande à quoi ressemble sa vie à Genève. L'ONU lui loue un deux pièces. Elle y lit la multitude de rapports et d'avis qui lui sont proposés. Et moi, sans cartel, je fais quoi quand je viens à Genève? Moi, j'ai rendez-vous avec Seb dans un bar bruyant d'un squat du quartier des Grottes. Ses yeux s'allument. Oh, je peux venir? Bien sûr. Elle sait. Elle sait que même quand on est tout en haut, si haut qu'après il n'y a plus rien par le soleil, même quand on doit défendre les droits de l'homme et la justice sociale dans le monde entier, pour en trouver la carte, il faudra toujours passer par une bière avec Seb dans le quartier des Grottes.
Le sous-commandant Marco, perdu dans le labyrinthe européen, à suivre tous les mercredis dans la méga-combi.
Radio Canu. Méga-combi. Méga-combi, c'est fini.
C'est fini.
C'est fini.
La prochaine méga-combi, c'est mercredi.
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 Dans un instant, c'est les infos. Alors,
un dernier petit mot. Un dernier petit mot. Un dernier petit mot.
C'est vraiment très très apaisant.
Ouais, c'est bien.
Elle est bonne. Elle est super bonne.
Eh, attendez, regardez. Là, le Club Med menacé. Visiblement, le préfet aurait dit qu'on manque de zones humides et ils veulent fermer le Club Med pour réinstaller une colonie de tritons.
Quoi, mais notre c'est Club Med
ouais, c'est ce qui est écrit, je vous jure. Ouais.
Ah, attends, on a déjà un jacuzzi et une piscine. Et une
ouais, mais c'est écrit, marre du tourisme, il est temps de revenir aux sources.
C'est quoi les tritons?
Mais les écolos, tu les mets dans un jacuzzi, ils vont changer d'avis.
Ah, je sais pas, en tout cas les tritons c'est des petites bêtes.
Ah non mais moi je suis sûre que c'est des oiseaux. Ah non mais ils vont pas nous remettre des oiseaux là, ça va si c'est pour voir des pigeons.
Non mais il y en a plein en plus des oiseaux.
Alors moi vraiment je trouve ça dégoûtant la nature, ça va quoi.
Non je pense qu'il faut s'organiser.
Moi j'ai rien contre les mouettes. J'ai rien contre les mouettes mais bon.
Ouais mais bon.
Non mais ici c'est un Club Med, ça doit rester un Club Med.
Et les géos, les gentils organisateurs ils vont devenir quoi? Au chômage?
Bah là dans ce projet là je pense qu'il y aura pas d'humains, tu sais, dans les zones humides il y a rien.
Mais souvent ils les abattent.
Ouais, non mais venez, il faut qu'on fasse un truc, je sais pas.
Ouais.
Les oreillers.
Il faut sauver le Club Med.
Oui,
on peut peut-être couper
on fait une maison de sable.
Palmiers et puis
non
une maison de sable, je sais pas.
Moi, je reste dans mon bungalow en tout cas.
Ah. Ouais. Et sinon, moi j'ai une
idée. Ils vont les détruire.
On pourrait faire des affiches, des trucs comme ça avec du macramé. On macramé. Ça peut être sympa, non?
Ouais, il faudrait trouver des slogans.
Ouais, bonne idée ça.
Ouais.
Avec la prof de macramé.
Non au triton, oui à. Je sais pas.
Ou oui, Club Med en danger, on se laissera pas tritonner.
Ouais, c'est bien ça. C'est pas mal, ouais. Et pour le sauna, faudra un truc sur le sauna parce que franchement, c'est trop bien le sauna.
Ouais, tu vois, genre, et le hammam, c'est hyper humide le hammam. Hein.
Vraiment, je trouve
plus de hammam. Plus de hammam.
Mais ils sont tombés sur la tête. Enfin, vraiment, c'est n'importe quoi.
Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens.
Bonjour.
Ah, bonjour.
Bonjour. Qui? Pierre.
Pierre,
mais on connaît Pierre.
Pierre et vacances.
Ah,
Pierre, bonjour monsieur et vacances.
Ah, mais ça peut nous intéresser.
Mais c'est génial, je suis trop contente de vous rencontrer.
Bah, je vous entendais parler là, vous organisez une lutte contre les zones humides.
Ouais,
c'est et les tritons.
Ouais.
Bougez pas, j'appelle mes potes du Canu Info.
Méga combi, c'est fini.